Bonjour, je ne vais pas, je vais pas avoir le temps de le dire, mais j'aurais aimé avoir le temps de le dire, d'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai rejoint le projet LGIDF et pour lesquelles je pense qu'il faut le soutenir en tant que linguiste professionnel et pour diverses autres raisons, mais je ne vais pas avoir le temps. Donc je passe directement à mon sujet, en partant cette fois-ci du français, et je vais centrer sur la catégorie de la personne. Donc je vais commencer par cette petite comparaison. Ne vous donnez pas trop de mal pour lire ce qui est en tout petit, ça viendra après. Donc ceci est extrait du chinois sans peine, méthode assimile, tome 2. Veux-tu que je t'apporte quelque chose? Je veux bien, achète-moi 2 paquets de cigarettes. Est-ce que tu veux des allumettes? Non, merci, j'en ai encore ici. Par contre, j'aimerais bien que tu m'achètes 2 stylos. Donc vous avez ici simplement le texte chinois et le texte français. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le mot à mot du texte chinois, c'est-à-dire que dit réellement le chinois quand il dit quelque chose qui, du point de vue du sens, revient à ça, au texte français qu'on a. Alors voici ce que ça donne. Donc toi, c'est vraiment le mot à mot, hein, et c'est commode parce que c'est une langue isolante, donc les mots sont bien isolés. Toi vouloir, pas vouloir, moi donner, toi porter, point, est-ouest. Je laisse est-ouest, c'est anecdotique. Hein, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ouest, ça veut dire objet, hein, et bon, il y a diverses hypothèses et diverses théories, peu importe, c'est anecdotique, mais enfin c'est intéressant quand même. Pouvoir aussi, donnez-moi, acheter 2 paquets, fumez donc. Et j'insiste sur le fait qu'après paquet, c'est comme tout à l'heure en turc, il n'y a pas de pluriel. Hein. Vouloir, pas vouloir, feu bois, pas utiliser, fini, moi ici encore avoir, également acheter 2 tiges pinceaux. Bon, ce sont deux moyens parfaitement plausibles l'un et l'autre de construire un sens qui a quand même un certain degré d'équivalence, hein, entre les deux langues. Alors, je commente un petit peu ce que j'ai mis en rouge. Toi, vouloir, pas vouloir, vouloir, pas vouloir, à la phrase 3, c'est-à-dire la question par oui ou non, hein, et on voit bien, c'est pas la seule solution en chinois, d'ailleurs, il y en a d'autres, mais celle-là est tout à fait claire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on pose une question? Eh bien, on demande à l'interlocuteur de choisir entre deux propositions contradictoires, vouloir ou ne pas vouloir, et dans ce cas-là, on les présente toutes les deux. Hein, vouloir ou pas, toi vouloir, pas vouloir, c'est dire ce que tu veux. Toujours dans la phrase 1, donnez-toi porter. Et de la phrase numéro 2, donnez-moi acheter. C'est-à-dire la préposition à ou le cas datif ou la préposition pour, hein, qui est utilisée, qui est rendue ici par un verbe qui est donné. C'est-à-dire en gros, vous avez un verbe subordonné au verbe principal. Donc porter pour le donner à toi. Ou en le donnant à toi, je ne sais pas trop comment le dire, il n'y a pas de morphologie en chinois, acheter pour le donner à moi ou en le donnant à moi. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que, disons, la classe des prépositions devient une classe un petit peu inutile à partir du moment où on a d'autres stratégies de signification. Bon. Est-ce que tu veux des allumettes, phrase 3 j'ai mis tu parce que, cette fois-ci, dans le texte chinois, le pronom n'est pas exprimé. Mais c'est parfaitement clair que, disons, il y a une espèce d'affinité naturelle entre la question et la deuxième personne, et la réponse et la première personne. Hein. Si je dis à quelqu'un, alors fatigué, et il me répond oui, fatigué. Et personne n'interprétera ça comme, est-ce que je suis fatigué? Oui, tu es fatigué. Hein. Tout le monde interprète ça comme, est-ce que tu es fatigué? Réponse oui, je suis fatigué. Il y a cette affinité. Il peut y avoir des contre-exemples, bien évidemment. Bon. L'autre problème, c'est les paquets fumés, et surtout, c'est plus clair, avec les 2 tiges pinceaux. Hein. Pourquoi 2 stylos? Encore, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de pluriel dans stylo, hein, comme tout à l'heure en turc. Mais on est en quelque sorte... Dans un cas, le problème s'est posé ce matin aussi, dans un cas où, disons, il n'y a pas à proprement parler de catégorie du nombre avec l'opposition singulier pluriel telle qu'on la connaît en français, ou alors extrêmement restreinte, hein, par exemple, pardon, à de l'animé défini, par exemple. Hein, on aura les étudiants avec le pluriel, mais des étudiants sans pluriel. Hein. Bon, et comme en quelque sorte, achète-moi du stylo, hein, c'est traité comme du partitif, c'est-à-dire comme de l'indénombrable. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait en français quand on a de l'indénombrable? Eh bien, on s'arrange pour que ça devienne dénombrable. Et comment est-ce qu'on peut faire que quelque chose qui n'est pas dénombrable devienne dénombrable? Eh bien, c'est soit de le mesurer, achète-moi 2 litres d'eau, achète-moi de l'eau, oui, mais combien de litres? Ou les contenants, achète-moi 2 bouteilles d'eau. Ou bien alors, la forme de l'unité irréductible. Et là, vous avez des feuilles de papier. Est-ce que tu veux du papier? Oui. Tiens, est-ce que tu pourrais me passer du papier? Oui, ben, t'en veux combien? Oh, donne-moi 3 feuilles, ça ira. Hein. Est-ce que, et même chose, même stratégie. Est-ce que tu pourrais m'acheter du stylo? Oui, combien? Bon, achète-moi 2 tiges. La tige de stylo comme la feuille de papier. Et vous avez comme ça dans beaucoup de langues qui ont un nombre tout à fait restreint, les objets plats, les objets cylindriques, etc., etc., qui ont ce qu'on appelle des classificateurs particuliers. Je voudrais donner un autre exemple qui est ici dans une langue créole. Vous n'aurez certainement pas d'élèves qui arrivent à l'école locuteur uniquement monolingue en créole guyanais, parce que c'est en train de disparaître. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas pas en France, pas en France métropolitaine. Ce qui me fascine ici dans ce texte, c'est que, si vous voulez, tous les mots sont ou clairs, disons, limpides, hein, du point de vue de la relation au français, ou à peine modifiés, hein, et on arrive pratiquement toujours à les récupérer. Hein, bon, mot aller travail, bon, laisser zot, c'est vous autres, hein, l'étymologie. Hein, pas oublier, ranger, case A, n'oubliez pas de ranger la maison, etc. etc. Couter pour écouter, Ali qui plie grand, bon, tous les mots sont à peu près limpides, sauf effectivement zot qui est vous autres, timoun qui est moun, c'est être humain, et l'étymologie c'est monde. Hein, et timoun c'est petit monde, hein, donc enfant. Et à la phrase 4, l'eau, l'étymologie, c'est l'heure, à l'heure où je ne suis pas là. Hein, d'accord. Donc ça sert de conjonction pour quand. Bon. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que de voir que, disons, ça a beau avoir 99% de vocabulaire français, ce n'est pas du français. Pourquoi ? Parce que la grammaire n'est pas du tout la grammaire du français. Et on pourrait, je ne vais pas avoir le temps, mais on pourrait montrer, par exemple, comment est construit le verbe, comment on construit le présent, le passé, le futur, etc. Comment on construit le syntagme, le groupe nominal, etc. Et puis, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, j'attire votre attention sur l'unicité des pronoms personnels, l'unicité et la polyvalence des pronoms personnels qui marchent, qui ne bougent pas et qui sont les mêmes dans toutes les fonctions. Hein, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, par rapport à ces exemples, comme je disais tout à l'heure, c'est des stratégies parfaitement plausibles pour construire le sens. Et pour être aussi optimiste, il y a des gens de langue maternelle chinoise qui parlent aujourd'hui parfaitement français, et vice-versa. Hein. Donc, ce n'est pas une tâche impossible que de passer à une langue, y compris une langue très différente. Mais ce qui, en revanche, disons, une idée qu'on devrait se tirer de la tête en tant que personne qui enseigne le français à des allophones, c'est que le français, ça va de soi. Hein, parce que j'ai entendu très souvent, y compris dans au niveau politique, hein, oh, s'ils arrivent, et des recteurs en particulier en Outre-mer, hein, où on a vraiment des Français non francophones, si vous voulez, dont on a oublié l'existence dans l'Hexagone, qui se disent, ah ben, ils parlent mal le français, c'est soit parce qu'ils sont idiots, soit parce qu'ils sont paresseux. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Il y a d'autres problèmes que simplement la paresse ou la bêtise. Hein. Il y a le fait que nous ne devons pas croire que ce que nous connaissons, nos habitudes de signification en tant que francophones, aille de soi. Certains exemples ont déjà été fournis dans la première partie de cette session. La rencontre avec une langue seconde, donc, remet en cause des habitudes acquises. D'un certain point de vue, c'est une chance, parce que ça permet d'avoir, de développer une vision plus riche et plus complexe du langage. Hein. Jusque-là, je ne connaissais qu'une langue. Bon, je croyais que le langage, c'était comme ça. Puis j'en vois une langue, surtout si elle est très différente. Mince alors, oh, y a ce truc-là, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé qu'on peut le dire aussi comme ça, etc. J'avais jamais pensé à ça. Hein. Donc, vous avez une conception plus riche du langage qui, si elle est bien utilisée, disons, est un ferment intellectuel hein, pour un vrai développement, ou au contraire, si elle est méprisée et persécutée, aboutit à un mal-être bien connu dans les situations de diglossie. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été très très bien décrit par des tas de gens qui ont appris le français ou d'autres langues officielles à l'école avec, la langue maternelle étouffée. Bon, je passe ici, lexique et grammaire, comme je... Oui, passons. Et j'en viens à ce qu'on appelle les catégories grammaticales. Il y a un certain nombre de phénomènes, un certain nombre, je ne sais pas si dire d'objets, de groupes d'objets, qu'on appelle les catégories grammaticales. Certains ont été déjà traités ici, dans cette session. Le genre et le nombre. Le cas pour les langues à déclinaison, on en vient d'en parler pour le turc. La détermination, les articles, etc. Le temps, aspect, mode, pour ce qu'on appelle les catégories verbales. Temps et mode, c'est connu. Aspect, c'est un peu moins connu. Je ne vais pas en parler. La personne qui est celle à laquelle je vais m'attacher par la suite. Et il me semble que d'une façon ou d'une autre, on voit ce genre de choses un peu partout, avec des nuances, hein, parce qu'il peut y en avoir qui n'existent pas dans certaines langues. Hein. Des langues sans cas, commencer par le français, c'est banal. Des langues sans genre, alors ça, je vous garantis qu'il y a beaucoup de langues sans genre, elles sont même probablement majoritaires. Des langues sans nombre, ça paraît un peu plus bizarre, mais ça peut exister quand même. Des langues sans personne, non. C'est assez intéressant. Et puis, donc, quand elles existent, ces catégories, elles peuvent être organisées différemment. Par exemple, des genres, ben, peut y en avoir deux, peut y en avoir trois. Et puis, comme dans les langues bantoues, peut y avoir davantage de classes, etc. Dans le nombre, il peut y avoir un duel, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Certaines peuvent manquer. Et d'autres sont peut-être possibles. C'est-à-dire, il y a des distinctions auxquels on n'a pas pensé, qu'on voit apparaître quand on se penche sur une langue qu'on ne connaissait pas encore. Ces catégories grammaticales, elles peuvent exister de façon manifeste, si vous voulez, dans les langues, dans la morphologie, par exemple, verbale ou nominale ou adjectivale, etc. En français, par exemple, je prends « nous travaillerons », il y a le radical verbal travail, le R de futur et le on de première personne du pluriel. Dans petite, alors je le prends en écrit, mais même à l'oral, en fait, on peut le récupérer d'une autre façon avec les problèmes de consonne qui réapparaît, avec les problèmes de liaison, etc. Petit, vous avez féminin, vous avez pluriel. Hein. Bon. Pour continuer sur le turc depuis tout à l'heure, hein, Girmediniz, vous n'êtes pas entré, vous voyez qu'il y a des choses en turc qui n'apparaissent pas qui vont apparaître comme des mots indépendants dans le français. Donc, dire était entré, mais négation, dit, il faudrait un accent aigu sur prête, ou pas d'accent du tout, prétérite, hein, et nise, deuxième personne du pluriel. Donc, vous n'êtes pas entré, Girmediniz. Donc, ce que vous avez de commun, c'est le radical, le temps et la personne, mais vous avez intégré dans le verbe la négation, ce qui n'est pas le cas en français. Et puis, si vous avez, par exemple, je prends Evler Inisde, dans vos maisons, Eve maison, l'air pluriel qu'on a vu tout à l'heure, Inis qu'on retrouve ici comme marque de la deuxième personne du pluriel, et D, le locatif, à l'intérieur, enfin, dont, disons, localisation sans mouvement, hein, ce qu'on appelle locatif. Bon, donc ça peut être marqué. De toute façon, il est possible, dans quelque langue que ce soit, de dire « vous n'êtes pas entré dans vos maisons », etc. Les stratégies vont être différentes. Mais l'un des problèmes qu'on peut... Comme dit, je n'ai pas retrouvé l'auteur de cet aphorisme. Quelqu'un pourra peut-être m'aider. Je crois que c'est un des premiers linguistes anthropologues américains. Je ne sais pas si c'est Boas ou quelqu'un comme ça, mais peut-être pas. Hein. Si vous me retrouvez l'auteur qui dit que les langues ne diffèrent pas parce qu'elles peuvent exprimer, mais parce qu'elles doivent exprimer. C'est-à-dire, effectivement, il y a des langues dans lesquelles, si j'ai un livre sur la table ou si j'ai deux livres sur la table, si j'ai un livre, je suis forcé de mettre le singulier, et si j'ai deux livres, plus d'un livre, je suis forcé de mettre le pluriel. Et puis, vous avez des langues qui peuvent laisser le problème de côté. J'ai du livre sur la table, j'ai livre sur la table, hein, donc si j'ai besoin de dire 1, 2, 3, 4, etc., je peux le dire, mais je peux aussi laisser la question du dénombrement exact de côté. Et le problème, dans le passage d'une langue à l'autre, va être le passage d'une langue qui sous-différencie à une langue qui sur-différencie. Par exemple, si je vais passer d'une langue sans genre à une langue avec genre, comme le français, surtout si le genre est arbitraire. À une langue sans nombre, à une langue avec nombre, comme le français. Une langue sans article à une langue avec article, ou une langue à déterminant, en général. Et ça, je vous garantis qu'à mon avis, on ne fait pas tout à fait assez attention à l'importance des articles. Je crois que Anne en a parlé un petit peu ce matin, disant quand est-ce qu'on a l'article et quels sont les problèmes que ça peut poser. Je n'en cite qu'un exemple. La célèbre résolution 242 de l'ONU de 1967 qui demandait à Israël de se retirer, withdraw, from occupied territories, avec l'article 0 en anglais. Deux, territoires occupés, territoires. Et s'agissait-il de se retirer des territoires occupés, ou s'agissait-il de se retirer de territoires occupés, un certain nombre, hein? Bon. Effectivement, on voit bien qui l'a interprété dans un sens et qui l'a interprété dans l'autre. Il me semble, je ne suis pas anglophone, native speaker, mais il me semble que from occupied territories, voulant dire de territoires occupés, il me semble que c'est de mauvaise foi, quand même, mais je ne suis pas sûr. Hein, c'est peut-être... Bon, alors, les catégories grammaticales peuvent être aussi marquées par des mots indépendants. Hein, ce que vous avez ici, par exemple, vous avez les temps, entre guillemets, temps aspect du créole guyanais. Vous avez mot manger qui est j'ai mangé. En fait, si on n'a rien devant le verbe, ça se traduira en général par un passé, sauf si c'est un verbe d'état. Je n'ai pas le temps de commenter ça. Moka, manger, ka, qui n'est pas à proprement parler un présent, mais plutôt un imperfectif ou un progressif, hein, être en train de. Moté, manger, par rapport à... C'est-à-dire que j'ai mangé, et ça, cette fois-ci, t, c'est vraiment un passé. J'ai mangé, c'était dans le passé, donc j'avais mangé. Et moqué, manger, ça c'est un futur, je pense. Et puis, les combinaisons possibles, c'est très joli d'ailleurs. Moté qu'à manger, on l'a vu tout à l'heure avec le turc, c'est-à-dire j'étais en train de manger. Je suis en train de manger, mais ça c'est dans le passé. Et puis, plus joli encore, moté qu'à manger, je serais en train de manger, mais ça c'était dans le passé. Alors, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je me renvoie à une situation du passé où je pouvais dire « je vais manger », mais en fait, si j'ai besoin de cette situation-là du passé et que je ne dis pas « à l'heure actuelle, j'ai mangé », c'est qu'en réalité, j'envisageais de manger et que je ne l'ai pas fait. Et là, vous avez les formes qu'on appelle frustratives dans pas mal de langues. Vous avez des choses comme ça en basque, vous avez dans beaucoup de langues. Et puis aussi certains conditionnels irréels, par exemple. Hein, « j'aurais bien mangé, mais il s'est passé telle chose », etc. Et j'attire votre attention sur le fait que la forme du conditionnel, du français, cette fois-ci, avec RAIS, enfin la première personne, c'est une combinaison du futur, avec le R, et de l'imparfait, avec AIS. Hein, c'est-à-dire, vous avez vraiment un parallèle, c'est-à-dire vous avez probablement des choses dures, hein, dans l'esprit des êtres humains qui construisent le sens. Bon, mais gardons pour l'instant l'idée qu'une langue sans morphologie n'est pas une langue sans grammaire, d'abord parce qu'elle a une syntaxe. Si je mets des mots en créole guyanais ou en chinois les uns à la suite des autres, je ne passerai pas pour un sinophone ou pour un créole guyanais. Et puis, elle a des catégories grammaticales, hein, ça c'est sûr. Bon, alors qu'est-ce qui fait les catégories grammaticales? Je reviens dessus. Nous travaillerons, vous avez un radical verbal, un morphème de temps et un morphème de personne. Combien est-ce qu'il y a de radicaux verbaux en français? Des milliers, des milliers. Combien est-ce qu'il y a de temps? Alors, si je prends que les temps non sans auxiliaire, voyez, ça peut être de l'ordre de 5. Et les personnes, c'est 6 ou peut-être les 3 personnes fois 2 pour le nombre, etc. Donc c'est petit comme nombre. Hein, bon, petit radical adjectival, genre féminin 1 sur 2, et nombre pluriel, 1 sur 3. 1 sur 2, pardon. 1 sur 2. Autrement dit, alors que, si vous voulez, la partie lexicale de ces mots, les radicaux, sont choisis dans un ensemble probablement très vaste et indéfini de termes, alors que les parties grammaticales sont choisies dans un ensemble fini et généralement petit, très petit, jusqu'à 2, de termes. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est dans la grammaire et dans les catégories grammaticales qu'on trouve, comment je dirais, j'ai cherché le mot, archétype n'est pas le bon mot, disons, des principes fondamentaux de la signification. Hein, quand on a vraiment peu de choses à sa disposition, entre les deux, on peut choisir, c'est vraiment des choses. Alors, je passe la catégorie de la personne, le français est une langue qui, pour les marques personnelles, certainement surdifférencie. Il y a beaucoup de marques personnelles, puisque les marques personnelles en français se combinent avec le nombre, avec le genre, avec les fonctions, sujet, complément d'objet direct, indirect, possessif, et même parfois avec le contexte phonologique. Je vais vous donner un exemple. Bon. Par exemple, si je compare le français et le créole guyanais, il y a une erreur, je m'en suis rendu compte après. Tu me vois, j'aurais dû mettre en gras le me de voix et pas le tu. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous avez en créole guyanais six formes, plus exactement six emplois de la même forme, mot, là où en français, vous avez six formes différentes qui sont je, tu, moi, mon, ma, mes. Alors, une fois de plus, oui, c'est me. Il fallait mettre en gros me. Hein. Je, me, moi, oui, c'est ça. Excuse-moi. Une fois de plus, l'acquisition le choix à bon escient de ces six mots du français n'est pas une tâche impossible. Mais il ne faut pas faire comme si le problème ne se posait pas. Hein. Et donc, il faut qu'on ait parfaitement dans la tête problème au clair, et que, alors ça, c'est plutôt les enseignants de terrain qui le trouveront, hein, voir quels sont les problèmes qui peuvent se poser, quelles sont les pédagogies qu'on peut inventer à partir de là. Alors, vous avez les pronoms, vous avez ce qu'on appelle les pronoms clitiques et les pronoms toniques. Les pronoms toniques, c'est ceux qui sont soit isolés, c'est moi, je, toi, tu, lui, il, elle, etc., ou bien avec une préposition, avec moi, avec toi, avec lui. C'est toujours les mêmes qu'on a dans ce cas-là. Pour les clitiques, ce sont des pronoms qui arrivent avec le verbe et qui ne sont pas, quand on regarde à peu près, ce n'est pas des vrais mots indépendants. Et on peut pas en faire n'importe quoi, ils ne sont pas accentués, on ne peut pas les séparer n'importe quoi. De ce point de vue-là, ils sont différents des pronoms anglais. Hein. Vous avez du genre, du nombre, bien sûr, et de la fonction, mais le genre n'arrive qu'à la troisième personne, l'opposition masculin-féminin, elle n'apparaît pas à la première et deuxième personne. L'opposition entre les deux compléments, complément d'objet direct ou indirect, n'apparaît qu'à aussi à la troisième personne, il n'apparaît pas aux deux premières, etc. Hein? Donc vous avez un système qui n'est pas le système qu'on pourrait attendre si moi je me faisais, si moi je m'inventais une langue dans laquelle je me dis, bon, vous voyez, j'ai trois personnes, deux genres, deux nombres, et trois fonctions, 3 fois 2, 6 fois 2, 12 fois 3, 36, donc je vais avoir 36 formes différentes. Non, ce n'est pas ça que j'ai. J'ai beaucoup moins que ça de formes, je crois que j'en ai 15 en tout. Donc vous avez des absorptions, de ce qu'on appelle des neutralisations, dans notre jargon linguiste. J'attire quand même votre attention, parce que ça, il faut que les enseignants de français en aient bien conscience, parce que ça peut poser des problèmes, y compris pour l'acquisition du français aux francophones, aux petits francophones. Il y a deux « lui ». Il y a deux L dans le tableau. Il y a un L, dont pronom sujet, dont le masculin est il. Et il y a un L, pronom tonique, dont le masculin est lui. Et il y a deux lui, le pronom tonique masculin et le pronom complément d'objet indirect, indifférent au genre. Et c'est, je crois, M. Petit, un prof d'allemand, qui racontait ça dans ses enfants, dans un livre dont j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle « Au secours, je suis monolingue et francophone ». où il explique comment un de ses enfants dit tiens, rends sa poupée à Valérie, mais Valérie, c'est pas un garçon. Non, Valérie demande sa poupée, il faut que tu lui rendes sa poupée, mais Valérie, c'est pas un garçon, on peut pas dire lui. Bon. Alors, vous avez en plus dans les fonctions, les fonctions du groupe nominal, les déterminants possessifs. Cette fois-ci, on a des déterminants qui s'accordent en genre un nombre avec le nom. C'est pour ça qu'autrefois, dans l'ancienne terminologie, on parlait d'adjectifs possessifs. Hein. Ça participe à ça, ça partage cette catégorie-là avec les adjectifs. Donc, mon mamé, ton tâté, etc., etc. Avec en plus cette difficulté qui est que cette fois-ci, le contexte phonologique va jouer un rôle, puisque on a mon ami eux, hein, mon école eux, bon, enfin mon école, hein, même si le nom est féminin, quand ça commence par une voyelle. Alors je vous donne aussi un truc, ça a l'air bizarre comme ça, mais il y a une régularité derrière, hein, c'est-à-dire que vous avez mon quand vous avez le ou l' apostrophe, et vous avez ma quand vous avez la. Et donc c'est sur cette régularité-là qu'il faut travailler plutôt que sur masculin-féminin. Bon, alors, d'autres stratégies sont possibles dans d'autres langues. Pas de différence avec les marques sujet, complément d'objet, complément indirect. On vient de le voir avec le créole guyanais. Le traitement par des affixes, on l'a vu avec le turc, on l'a vu avec l'arabe. Disons, on a des suffixes qui marquent la personne sur le nom. L'identité de construction avec les vrais compléments de nom, où le complément de nom est un nom. Quand on a avec le chinois, par exemple, Chang de Shu, de Chang livre, et Wo de Shu, de moi livre, hein, et avec cette production que vous avez peut-être entendue des fois, le livre de moi. Et puis, la variation en genre selon le possesseur, qui est bien connue aussi, qu'on a dans les langues germaniques, par exemple, et dans d'autres langues. Alors, tout ne va pas de soi, comme je disais. Des difficultés sont possibles en français. Qu'est-ce qui peut poser des difficultés? Le pronom sujet obligatoire. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à la question « venir quand ?» réponse « venir demain hein, ». Quand viens-tu ? Je viens demain, ça c'est forcé. Le pronom objet, COD obligatoire. Le pronom objet direct obligatoire, je le mange, watche, moi manger, si le verbe est transitif, ça veut dire je le mange, ça veut dire qu'on sait ce qu'on mange. Sinon, on est forcé de dire je mange quelque chose. Hein, et qu'est-ce que c'est que quelque chose ? Ça va dépendre du verbe. Hein. Si je mange quelque chose, ce sera de la nourriture. Vous aurez une espèce, ce qu'on appelle quelquefois un objet vide dans les grammaires chinoises. L'autre difficulté, la préposition des pronoms clitiques objet, alors que le nom objet est postposé au verbe. Donc, il m'a battu, mais vous pouvez voir, alors qu'on pourrait attendre, venant d'une autre langue, il a battu moi. Diabolique, les pronoms objet à l'impératif. Regarde-moi. Ou si c'est moi ou à première et deuxième personne, on a le tonique, le pronom tonique. Et si c'est la troisième personne, on a le pronom clitique objet. Regarde-le, regarde-la, et non pas regarde-lui. Hein? Bon. Autre problème aussi, l'existence de deux pronoms clitiques objet. Certaines langues ne différencient pas. Alors là, j'exagère, j'ai pas trouvé un bon exemple. Parce qu'il y a des tas de langues pour lesquelles il est, comment dire, naturel de dire « je l'ai téléphoné ». En allemand, on dit « je l'ai parlé »,« j'ai parlé le chef », enfin des choses comme ça. Mais disons, vous avez par exemple, en particulier chez les créolophones, beaucoup de créolophones qui vont vous produire « je l'ai téléphoné enfin. ». Et en français courant, vous le savez comme moi, la réduction en complément d'objet indirect, « je lui donnerai », pour vous dire « je le lui donnerai plus »,« je lui donnerai », »,« j'y donnerai », enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans le genre. Alors, l'emploi du réfléchi aussi... Et une source de complications, d'abord parce que l'usage du réfléchi tel qu'il est en français n'apparaît que la troisième personne, alors que dans un certain nombre de langues, l'usage du réfléchi est une langue, le réfléchi est le même à toutes les personnes. Hein. C'est ce qu'on a en particulier dans les langues slaves. On dit je se vois, je se lave, etc. etc. D'autre part, dire que le réfléchi marque une action du sujet sur lui-même, c'est un petit peu court, puisque vous avez des tas d'emplois du réfléchi qui ne répondent pas du tout à cette définition. En particulier, si je dis « je m'ennuie », c'est pas « je ne fais rien pour m'ennuyer ». Je ne fais aucune action qui a pour résultat de m'ennuyer, hein, bien évidemment. Mais il y a des situation ou des éléments de la situation non définie qui m'ennuient. C'est plutôt ça. Idem pour s'amuser, se fâcher, etc. Et puis, les exemples que je donne, mais on pourrait les multiplier. Ça ne se fait pas, la maison se construit, elle se voit depuis ici. Cette soupe se mange chaude ou froide. Il se consomme ici 20 tonnes de viande par jour. On avait vu ce matin l'exemple de le mouton mange, croit en bambara, sauf erreur, qui veut dire le mouton se mange, hein, est mangeable. C'est-à-dire des gens non définis peuvent manger le mouton. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est stable là-dedans, c'est le patient. Hein, et ce n'est pas l'agent. Hein, ce n'est pas ce qui serait pour nous le sujet du verbe transitif. Plus des alternatives en français avec « on », on ne fait pas ça, on construit la maison, etc. etc. Alors, je viens avec « on ». Rareté linguistique, et un des participants ce matin avait lancé avait remarqué que ça pouvait poser des problèmes. C'est une forme très rare. Hein, on le trouve dans gallo-romans, mais on ne le trouve pas, par exemple, en espagnol ou en portugais. On le trouve en allemand, en irlandais, dans la langue scandinave, on ne le trouve pas en anglais, par exemple. C'est en quelque sorte ce qu'on peut appeler un pronom joker, c'est-à-dire que ça peut remplacer n'importe lequel des pronoms, quelle combinaison. Hein, c'est-à-dire, allez les enfants, on se lave et on s'habille. Hein, bon, vous vous lavez et vous vous habillez, avec l'aspect injonctif dedans. Bien, alors grand-père, on fait du sport, donc vous faites du sport, hein, et on se maintient en forme, donc je me maintiens en forme. Hein, d'accord ? Avec en particulier, effectivement, on en avait parlé ce matin aussi, le substitut de nous en français courant. Qui est tellement courant que moi je pense qu'il fait partie du standard. Vraiment, c'est tellement courant qu'il mérite de passer en standard. Alors, des alternatives. Pour avoir des réfléchis, il se danse pour dire on danse. Le verbe intransitivisé qu'on avait vu avec le mouton mange, vous dire le mouton, on mange du mouton, et que vous avez aussi en anglais, hein, this book sells well, ce livre vend bien, il y a quelques contraintes, il y a quelques conditions pour lesquelles ça puisse être utilisé en anglais. Ils, qu'on trouve aussi en français, ils construisent une maison, or ils ont encore bouché la route, or ils ont encore tu en italien, et à Noël tu fais des cadeaux. Hein, ce qui peut choquer, parce qu'on n'a pas l'habitude, si un Italien vous voit normalement et qui vous dit à Noël tu fais des cadeaux, c'est pas qu'il devient impoli ou qu'il devient trop familier, hein, c'est qu'il utilise tu dans le sens on. Hein, et uno en espagnol, par exemple, un danse, etc. Alors, dernier problème, je vous le lance comme ça simplement parce que je ne le finalise pas. J'en en finis pas l'explication. La troisième personne impersonnelle, avec il ou avec ça. Donc vous avez le météorologique qui est il pleut, il neige, il fait beau. Vous n'avez pas ça pleut. L'heure, vous avez, quelle heure est-il? Il est midi. Quelle heure c'est midi? Ça me paraît un peu bizarre. Je connais des gens qui disent ça. Nous sommes le mercredi 1er juin. Vous pouvez avoir c'est le mercredi 1er juin. Il est le mercredi 1er juin, ça ne va pas. Et puis toutes l'annonce. Tout d'un coup, c'est le printemps, c'est la guerre, c'est le bordel ici, hein, qui est toujours pas avec C. C'est génial, c'est terrible. Ça m'embête, ça me fait plaisir. Aussi, la causation de sentiments, hein, c'est toujours ça. Très bizarre aussi. Je te présente Jean, c'est mon frère. Jamais il est mon frère. Hein. En revanche, vous avez il est médecin. Mais vous avez c'est un médecin. On n'a pas il est un médecin, he's a doctor. Vous avez aussi c'est le médecin du pays. Et puis, le ça de reprise. Avec une thématisation forte d'un groupe nominal. Des fleurs, ça fait toujours plaisir. Et, formule célèbre, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous proposer un petit exercice. Hein? Voilà. Alors, je vous ai décrit les problèmes qu'on peut avoir quand on passe d'une langue sous-différenciante et une langue surdifférenciante comme le français, mais il y a des domaines, y compris dans la catégorie de la personne, où le français sous-différencie par rapport à d'autres langues qui surdifférencient. C'est-à-dire, en particulier, il y a beaucoup de langues dans lesquelles vous pouvez avoir deux façons de dire « nous », de façon de dire la première personne du pluriel, et même quatre. Alors, je prends le tahitien, j'en prends que deux, en réalité, il y en a quatre, mais je viendrai peut-être après, s'il y a le temps. Voilà, en tahitien, Nous, ça se traduira selon les cas par mato ou tato. Alors je donne quelques exemples en contexte. Vous, les popas, c'est-à-dire les métropolitains, hein, vous pensez que nous, les Polynésiens, etc., continuez ce que vous voulez, crypto-raciste ou autre, hein, et dans ce cas-là, vous aurez mato. Bon. Si vous voulez, demain, nous irons à la plage. On ira à la plage. Hein. Si vous voulez, demain, on ira à la plage. Là, ce sera tato. Hein. Et puis, le politicien qui commence son assemblée, en disant, chers électeurs, nous, tato, sommes réunis ici pour. Et puis, si je suis avec ma famille et que j'ai un ami qui s'en va, est-ce que je peux repasser la semaine prochaine? Ah ben oui, mais quand tu reviendras, nous, mato, cette fois-ci, serons déjà partis. Bon, je vous laisse l'hypothèse. Est-ce que vous pouvez trouver l'hypothèse? Pardon? Ah ben vous savez déjà tout. Vous savez déjà tout. Oui, oui. C'est-à-dire la question de savoir, est-ce que, la question qu'on a ici, est-ce que l'interlocuteur fait partie du nous ou pas, hein? C'est-à-dire, est-ce que le nous, puisqu'il n'y a pas à proprement parler de première personne du pluriel, mais de la combinaison de personnes, c'est-à-dire, est-ce que le nous, c'est première et de, c'est une combinaison de la première et de la deuxième, ce qu'on appelle effectivement, comme vous savez sans doute, le nous inclusif, comme certains d'entre vous en tout cas le savent, le nous inclusif, ou bien est-ce que c'est moi et d'autres personnes et pas toi, ce qu'on appelle le nous exclusif, hein? Donc, si vous regardez les contextes, ça correspond bien. Vous, les popas, vous croyez que nous, exclusifs, et pas vous, les popas, les Polynésiens. Si vous voulez, nous, moi et vous, toi et nous, pardon, toi et nous irons à la plage demain, ça c'est inclusif. Chers électeurs, nous, c'est-à-dire moi qui parle et vous qui êtes ici, tout le monde est inclus. Et quand tu reviendras, nous, c'est-à-dire ma famille et moi, nous serons déjà partis. Et ça ne te concerne pas. Donc, j'aurai mato cette fois-ci. Alors, chose intéressante, quand on a ce genre de situation, et qu'en français, on ne peut pas dire qu'il y ait du nous inclusif exclusif, et pourtant si, mais ça ne se voit pas tout de suite. Je vous indique quand même quelques contextes. Donc, je viendrai après. Donc voilà, des combinaisons, etc. Cette distinction existe dans de nombreuses langues, hein, les langues polynésiennes dont toutes, me semble-t-il. Il me semble que, je ne sais pas si toutes les langues kanak, mais pas mal de langues kanak, un certain nombre de langues amérindiennes l'ont, et ça peut aboutir à des malentendus. L'exemple que je donne, c'est ce soir, on va au cinéma, au chic, voir quoi? Réponse, et nous, c'est mes copains et moi, et pas toi. Hein? C'est-à-dire, en fait, le A a compris exclusif, c'est-à-dire moi et mes copains, et pas toi, et B a compris inclusif. Hein? C'est-à-dire, ouais, je suis dans le coup, quelle chance. Bon, et on ne pourrait pas voir ces ambiguïtés en tahitien. Bon, or, l'opposition inclusif-exclusif apparaît en français, j'ai au moins trouvé trois cas, mais j'en avais trouvé un quatrième une fois, une nuit en dormant, et j'ai oublié le... avant de dormir. Donc, le jeu de questions-réponses, le jeu de questions-réponses. Vous savez, comme moi, que dans le jeu de questions-réponses, que veux-tu que je fasse? Réponse, je veux que tu fasses telle chose. Hein? C'est-à-dire que le tu est repris par le je dans la réponse, et le je est repris par le tu dans la réponse. C'est-à-dire les deuxièmes, première et deuxième personne alternent. Bon. Si nous avons un inclusif, que faut-il que nous fassions? Toi et moi. Réponse, il faut que nous fassions, moi et toi. Hein? C'est-à-dire, ça permute, mais ça donne la même chose. Hein? On est toujours dans du 1 plus 2. Mais si vous avez « que faut-il que nous fassions, moi et quelqu'un d'autre ?» Réponse, il faut que vous fassiez, cette fois-ci, je ne suis pas dans le coup, je vous donne un conseil. Hein? Et donc le 2 plus 3, et ça devient cette fois-ci deuxième personne du pluriel. L'impératif première personne du pluriel, forcément inclusif. Bon, allons-y, arrêtons là, prions. En fait, c'est quelqu'un qui s'adresse à une assemblée ou à d'autres gens et les invite à participer à quelque chose. Hein? Et ce qui donne une généralisation assez intéressante sur l'impératif, parce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est que cet impératif à la première personne du pluriel? C'est idiot, hein? Puisque normalement l'impératif c'est la deuxième personne. Ben oui, l'impératif c'est deuxième personne, du singulier, du pluriel, ou nous inclusif. C'est-à-dire première et deuxième. Et quand vous avez nous-teux, ça c'est forcément exclusif. nous te connaissons bien, nous t'attendrons demain à la gare, etc., etc. C'est forcément exclusif. Voilà. Donc, en fait, il y a trois nombres en tahitien. Donc, il y a non seulement Matau Tatau, qui sont le pluriel, mais vous avez Mawa Tawa, qui sont le duel. Hein, donc, en tout, il y a quatre nous, et je vous invite à réfléchir pour vos... si vous avez le temps, de votre usage du nous ou du on, et quelle forme du tahitien est-ce que vous utiliseriez chaque fois que vous utilisez nous ou on. Voilà. Donc, merci. J'ai fini.